France Inter.
Merci Flore, le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec David Gourion.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée dans les profondeurs de l'inconscient. Sans nous y noyer, car dans notre odyssée, nous n'allons pas seulement naviguer autour de la façon dont notre inconscient influence nos prises de décision, mais nous allons surtout tenter d'échapper aux forces obscures qui nous attirent vers les bas-fonds des mauvais choix, à l'instar des envoûtantes sirènes qui tentèrent de charmer le bel Ulysse. C'est mon quotidien de psychiatre que d'être confronté à la difficile question des choix. Jeanne est une trentenaire, brillante et ambitieuse, qui travaille dans le domaine des technologies numériques. Elle est confrontée à un choix de vie crucial. Accepter une intervention chirurgicale délicate ou continuer de vivre avec une maladie invalidante. Au premier abord, la décision semble soutenue par les conseils convergents des différents médecins et chirurgiens spécialisés qui ont tous donné un même avis favorable à l'intervention pour laquelle une date a été proposée. Au cours de la séance, bien que Jeanne dise à plusieurs reprises son désarroi face à la difficulté de ne pas savoir ce qu'elle doit choisir, alors même que l'échéance approche, il m'apparaît évident que son inconscient a déjà pris sa décision. Je le sais, mais elle pas encore, et je vous expliquerai plus loin comment je le sais et pourquoi sa décision risquait de ne pas être la bonne. Pourquoi Julien, un autre de mes patients, s'investit-il autant dans cette entreprise dont le patron le maltraite et l'humilie quotidiennement, alors qu'il pourrait facilement trouver ailleurs avec ses diplômes et son CV? Pourquoi Géraldine, une femme sensible et intelligente, retourne-t-elle avec ce mari violent que pourtant elle n'aime plus depuis longtemps? Quel est le poids des émotions dans ces décisions irrationnelles? Quelle est l'influence de nos proches sur nos choix, voire leur emprise? Quels sont les biais cognitifs, ces bugs cérébraux qui nous aveuglent? Il est fondamental de mieux le comprendre, car je cite Sénèque, « Être heureux, c'est apprendre à choisir. » Pas seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voix, son métier, sa manière de vivre, sa manière d'aimer. Et du reste, dans toute la littérature, depuis l'aube de la tragédie grecque jusqu'au moderne, il n'est question que de cela. De Sophocle à Kundera, en passant par Flaubert, Balzac, Camus et tant d'autres, on explore l'influence de l'inconscient sur les décisions des personnages. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur l'influence de l'inconscient sur nos choix et nos décisions, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient avec David Gourion sur France Inter.
Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui, nous ne pouvons pas.
Pourquoi?
Il nous ferait mourir.
Bien sûr! À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions?
Je ne veux pas mourir.
Souvenez-vous, dans Antigone, la protagoniste éponyme est confrontée à un conflit moral entre les lois divines et les lois humaines. Elle décide d'enterrer son frère Polynice, malgré l'interdiction du roi Créon de le faire, car Polynice était considéré comme un traître. Antigone est aveuglée par son deuil, autant que par son dévouement aux principes moraux et religieux, et cette décision, bien qu'évidemment honorable, entraîne une série d'événements absolument tragiques. L'inconscient d'Antigone, guidé par des croyances profondément ancrées, certes admirables mais comment dire un rien rigide, l'a conduite à prendre des décisions qui finissent par avoir des conséquences épouvantables, y compris sa propre condamnation à être ensevelie, vivante. Bad choice, pauvre Antigone.
Un jour, Apollon Loxias me déclara que je devrais m'unir à ma propre mère et verser de mes mains le sang de mon père.
Et que dire des choix déplorables du héros de l'autre grand chef-d'œuvre de Sophocle, Œdipe Roi, puisque le protagoniste, après avoir abandonné le domicile familial, tue son père Laïos, puis épouse sa mère Jocaste. Lamentable. Quant au pauvre Thomas de Milan Kundera, souvenez-vous, ce chirurgien tchèque talentueux qui, dans l'insoutenable légèreté de l'être, mu par son désir inconscient de légèreté justement, croit prendre des décisions absolument formidables en quittant son pays d'origine et en trompant sa compagne Teresa, et qui finira simple concierge dans un hôtel en Suisse. Déprimant. Vous en voulez d'autres, des mauvais choix dans la littérature illustrés par les forces obscures de l'inconscient? Eh bien, il n'y a que cela. Tiens, prenons L'étranger d'Albert Camus. Souvenez-vous comment Meursault, totalement dissocié, détaché de lui-même et de ses propres émotions d'ailleurs, commet un meurtre totalement absurde sous le soleil écrasant de l'Algérie. Et que dire du Rastignac de Balzac? Jeune homme ambitieux, prometteur, qui arrive à Paris, mu par des désirs irrépressibles de réussite sociale, au point de négliger ses études pour se consacrer à une vie de fête et de frivolité, et qui d'ailleurs n'est pas sans évoquer le Julien Sorel du Rouge et le Noir de Stendhal, dont les choix sont tout aussi catastrophiques d'ailleurs, et évidemment sous-tendus par des fantasmes narcissiques et puérils de réussite et de toute puissance. N'en jetez plus, allez-vous me supplier dans quelques instants. Eh bien, j'ai pire encore. Oui, je vous assure. Pensez à cette pauvre Emma dans Madame Bovary. Prend-elle de bonnes décisions peut-être? Sans parler de ses amants plus que douteux, que penser de sa gestion financière totalement irresponsable? Constamment aveuglée par ses fantasmes de luxe, obsédée par le désir de mener une vie raffinée et élégante, bien au-delà des moyens de Charles, son loser de mari, elle contracte secrètement des dettes considérables qui la conduiront à la ruine, au désespoir et au suicide. Mais revenons aux origines et à l'histoire de la découverte de l'inconscient et de son influence sur nos comportements, des plus importants aux plus insignifiants, du moins en apparence. Et c'est avec sa psychopathologie de la vie quotidienne que Sigmund Freud ouvre, dès 1900, rendez-vous compte, une fenêtre passionnante sur la psyché, en révélant comment nos actes manqués, nos oublis et nos lapsus ne sont pas simplement des coïncidences malheureuses. Il nous y invite à considérer ces petites erreurs non pas comme des événements contingents, mais comme de brèves irruptions intempestives de notre inconscient qui viennent émailler notre journée, à la façon de petites échardes qui viendraient piquer à travers l'étoffe qui part notre quotidien de l'apparence du réel. Comme des lutins espiègles, nos désirs refoulés s'agitent, vibrioniques, dans l'ombre de nos actions, cherchant à se dévoiler. Ils émergent parfois sous la forme d'erreurs anodines, comme appeler votre magnifique patronne par le prénom de votre ex-amoureuse, ou oublier l'anniversaire de votre mère peu après qu'elle vous a reproché de vous occuper insuffisamment des devoirs du petit dernier. C'est comme si notre inconscient nous faisait nous prendre les pieds dans les replis d'un tapis tissé de nos désirs et de nos fantasmes les plus transgressifs. Freud y donne l'exemple d'un homme en train de parler de sa femme et qui dit accidentellement « Ma femme est ma pire ennemie ». Puis il se corrige en disant « Pardon, ma plus grande amie ». Et ce lapsus de nom entre ennemi et ami peut alors être interprété comme une révélation des sentiments évidemment ambivalents que l'homme éprouve dans sa relation conjugale. Pour Freud, les actes manqués ne sont donc pas le fruit d'un simple hasard, mais des indices précieux de ce que nous désirons réellement. Derrière chaque oubli de nom se cacherait un fantasme inavoué, une pulsion agressive ou bien un conflit intérieur. Et les rêves et les lapsus sont pour lui les messages cryptés de notre inconscient, cherchant à nous révéler nos souhaits et nos angoisses les plus profondes. Si vous souhaitez tester cette théorie sur vous-même, la prochaine fois que vous oubliez les clés de votre voiture, que vous appelez votre voisin par le nom de votre ancien amoureux, rappelez-vous que c'est peut-être votre inconscient qui vous joue un tour et essaye de vous dire quelque chose d'important. L'inconscient est donc une force puissante qui joue constamment avec notre réalité, qu'il s'agit d'écouter avec attention, sagesse, mais aussi humour. Depuis les travaux pionniers de Sigmund Freud au début du XXe siècle, nous avons progressé dans notre compréhension de la manière dont l'inconscient façonne nos choix et donc nos vies. Les recherches actuelles sur l'inconscient sont soutenues par l'existence d'outils d'imagerie et de traitement des données par des modèles informatiques d'intelligence artificielle de plus en plus performants et qui permettent d'explorer extrêmement finement les processus qui mènent vers l'émergence d'une décision. Laquelle précède, vous avez bien entendu, je dis bien, précède la prise de conscience de cette même décision. Comme nous le verrons avec les résultats d'études récentes, absolument fascinantes. L'une de ses études, publiée en 2019 par une équipe australienne, montre de façon très claire que notre cerveau prend des décisions bien avant que nous en soyons nous-mêmes conscients. Pour être précis, il est possible de prédire nos choix avec 11 secondes d'avance. 11 secondes d'avance. Lors de cette étude, les participants avaient le choix entre deux motifs de rayure pour un vêtement, l'un avec des bandes verticales vertes ou l'autre avec des bandes horizontales rouges. Très simple. Ils avaient 20 secondes pour faire leur choix et après avoir choisi, ils devaient simplement se représenter mentalement le motif choisi. En parallèle, les chercheurs observaient leur activité cérébrale en imagerie par résonance magnétique nucléaire et déclaraient d'ailleurs avoir été eux-mêmes extrêmement surpris par le résultat. Joel Pearson, l'un des deux co-auteurs, déclarait « Nous avons réussi à décoder des informations sur les images choisies dans les aires visuelles, frontales et sous-corticales en moyenne 11 secondes avant que la décision du participant n'intervienne. Nous pensons que lorsque nous devons faire un choix avec deux possibilités ou plus, des traces inconscientes de ce choix sont déjà présentes dans notre cerveau, un peu comme des hallucinations inconscientes. » Fascinant. Et lorsque nous devons prendre une décision, les aires du cerveau impliquées choisissent la trace de pensée la plus forte. En d'autres termes, c'est une activité préexistante du cerveau correspond à l'une des possibilités, alors notre cerveau tend à pencher pour ce choix-là, car il tend à suivre ce chemin comme un sillon déjà tracé. Nous serions donc malgré nous, et si nous n'y prenons garde, amenés à faire les mêmes choix en boucle, comme si nous répétions toujours un peu le même scénario. Un peu comme si notre cerveau tournait en rond, tendant à répéter à l'infini les mêmes choix, bons ou mauvais. Ces résultats, publié en 2019 par Koenig Robert et Joel Pearson, confirme d'ailleurs ceux d'une étude antérieure publiée dans la très prestigieuse revue Nature Neuroscience, dans laquelle des chercheurs du Max Planck Institute avaient pu constater une activité dans le cortex préfrontal environ 10 secondes avant que les sujets ne prennent de décision. 11 secondes, 10 secondes, on voit que c'est la même chose. Pour revenir à la pratique clinique du psychiatre que je suis, ceci évoque éminemment les comportements addictifs des personnes qui ne peuvent résister à la répétition de choix éminemment défavorables pour eux, au point parfois malheureusement de détruire leur vie et celle de leur entourage. Que ce soit les addictions aux substances ou les addictions comportementales, comme on dit aujourd'hui, comme par exemple les crises de boulimie, pourrait aussi y catégoriser les troubles obsessionnels compulsifs, tous ces comportements pourraient être sous-tendus par cette tendance à répéter à l'infini la même séquence de pensées, de rituels ou de comportements, par exemple sous forme de lavage de mains ou de rangements interminables pour tenter de calmer l'anxiété. La répétition de schémas relationnels, en particulier de choix amoureux ou amicaux, toxiques, pourrait également être concernée par cet inconscient qui choisit pour nous une voie invisible, préalablement tracée dans notre cerveau. Enfin, les personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique et qui décrivent la répétition à l'infini de flashbacks et de cauchemars épouvantables, horribles, pourraient aussi être concernées par cette même trace qui demeure inconsciemment présente et motive leur choix, en particulier lors de situations qui viennent leur rappeler l'événement traumatique. Les neurosciences suggèrent donc que des traces inconscientes de nos choix préexistent dans notre cerveau avant même que nous les ayons faits, influençant par là même nos décisions. C'est vertigineux. Alors que reste-t-il du libre arbitre après cela? Difficile de le dire, mais cela semble se réduire un peu comme peau de chagrin. Mais rappelons qu'avant Freud, le grand Nietzsche avait lui-même fait preuve de scepticisme quant à ce libre arbitre, considérant que les êtres humains sont profondément déterminés par une volonté de puissance, je le cite, suggérant que les causes réelles de nos choix sont extrêmement éloignées de celles que la morale traditionnelle nous incline à suivre, cette dernière, pour Nietzsche, ne servant qu'à opprimer ou réprimer nos libres instincts et pour servir les intérêts de ceux qui les édictent, c'est-à-dire le pouvoir dominant. Dans Ainsi parler Zarathoustra, il écrit, je le cite, « Dans l'homme, il y a davantage de choses à honorer que de choses à mépriser. » C'est tellement beau. C'est-à-dire que l'homme est un être complexe, façonné par une multitude d'influences diverses, ce qui remet en cause évidemment les notions traditionnelles, bibliques, portant sur la responsabilité individuelle, la liberté de choix. Très loin donc, chez Nietzsche, d'une vision simpliste, d'un libre arbitre qui nous dicterait ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que ce même cortex préfrontal, souvent considéré comme le siège de la rationalité, est en réalité en constante interaction avec des régions plus archaïques de notre cerveau, notamment impliquées dans la régulation des émotions. Imaginez un peu ce cortex préfrontal comme un ministre qui présenterait une recommandation claire et rationnelle au président, en l'occurrence notre moi conscient, pensant ainsi pouvoir l'aider à prendre une décision éclairée, alors qu'agissent, dans l'ombre, des conseillers spéciaux secrets, fort influents, qui l'inciteront à prendre une direction différente. C'est exactement ça notre cerveau, une sorte de salle de conseil des ministres à l'étage supérieur et à l'étage inférieur, un couloir bruissant de rumeurs et de complots, dans le même genre d'ambiance interlope que celle qui devait régner dans les antichambres du Palazzo Vecchio à Florence, sous les Médicis. Entre les deux, des passages secrets, des souterrains, des messagers secrets, des choses trappes et des oubliettes que l'on s'efforce de décrypter, ou pas, au cours de nos vies. Des découvertes et des surprises, survenant au hasard d'événements insignifiants en apparence, de rencontres singulières, ou parfois même, pourquoi pas, au cours d'une thérapie. Ce dialogue complexe entre l'inconscient et la conscience est dynamique, en constante mutation, avec une multitude de messagers chimiques et de signaux électriques qui se croisent dans d'infinis réseaux de neurones qui composent notre matière grise. Pour illustrer cette symphonie cérébrale d'une infinie complexité, permettez-moi de revenir à l'histoire de Jeanne. Souvenez-vous, cette jeune femme qui, sans le savoir, avait déjà pris l'une des décisions les plus importantes de sa vie. En me parlant de la difficulté de ce choix de vie majeur, entre continuer de souffrir de troubles intestinaux sévères ou se faire opérer, Jeanne, la patiente dont je vous parlais au début, énumérait les témoignages sur Internet de personnes ayant bénéficié de cette intervention. Et j'ai su qu'elle avait déjà choisi, alors qu'elle n'en était pas encore consciente, pour une simple raison. Elle ne faisait qu'énumérer des exemples de patients insatisfaits pour des raisons diverses, complications, effets indésirables, etc. Mais elle n'évoquait aucunement la possibilité, pourtant fort probable, d'une guérison définitive. Jeanne était alors victime d'un biais cognitif particulièrement fréquent, j'y reviendrai, le biais de confirmation. C'est comme si son inconscient était le gardien zélé de ses convictions, filtrant les informations pertinentes pour qu'elles correspondent exactement à sa vision du monde. Elle recherchait activement des témoignages de personnes qui avaient subi des revers avec la chirurgie, ignorant presque délibérément les histoires de ceux pour qui l'évolution avait été favorable. L'inconscient de Jeanne était déterminé à la pousser inéluctablement vers la décision qui semblait confirmer ses préférences profondes.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec David Gorion.
Bien entendu, l'influence de l'inconscient sur nos choix ne se limite pas aux décisions médicales. Elle se manifeste dans nos choix existentiels les plus divers, qu'ils soient personnels ou professionnels, jusque dans nos préférences amoureuses, dans la manière dont nous gérons notre temps et même dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions, dont bon nombre sont guidées par des processus purement inconscients. Prenons par exemple nos choix alimentaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez soudainement envie de quelque chose de sucré ou de salé? Eh bien, l'inconscient joue un rôle clé dans nos préférences alimentaires. Des études ont montré que les émotions et les souvenirs sont étroitement liés à nos choix alimentaires. Parfois, nous recherchons inconsciemment des aliments qui nous rappellent des moments heureux de notre enfance, ou bien nous cherchons à apaiser nos émotions en mangeant. Et il a été montré que si vous faites vos courses en ayant faim, vous dépenserez plus d'argent que si vous le faites après un bon repas pour des raisons, évidemment, totalement inconscientes. L'inconscient joue également un rôle absolument majeur dans nos interactions sociales. Nos premières impressions des autres sont souvent teintées par des jugements inconscients basés sur des indices subtils tels que la posture, le langage corporel, le ton de la voix, le visage, etc. Et ces jugements initiaux peuvent influencer nos réactions aux autres, parfois de manière extrêmement surprenante. L'inconscient peut également jouer un rôle dans les stéréotypes, les préjugés négatifs que nous pouvons avoir envers certaines personnes ou groupes, négatifs ou positifs d'ailleurs. Nos choix en matière de relations amoureuses sont également fortement influencés par l'inconscient. Nous présentons des styles d'attachement, des schémas relationnels récurrents dans nos choix de partenaires. Parfois, nous sommes attirés par des personnes qui reflètent des caractéristiques et des figures parentales que nous avons eues, même si nous ne sommes pas conscients de cela. Ces schémas, inconscients, peuvent jouer un rôle dans la manière dont nous interagissons avec nos partenaires et dans les conflits qui peuvent survenir d'ailleurs. L'inconscient joue également un rôle primordial dans notre gestion du temps. Cette dernière est un défi quotidien pour beaucoup d'entre nous, et ceux qui sont systématiquement en retard se reconnaîtront. L'inconscient peut influencer la manière dont nous planifions nos journées et priorisons nos tâches, et au fond dont nous nous traitons nous-mêmes. Par exemple, certains d'entre nous sont plus enclins à procrastiner, repoussant les tâches désagréables à plus tard sans aucune raison rationnelle. Cela peut être lié à l'anxiété inconsciente que ces tâches suscitent. Bien comprendre ces mécanismes pourrait nous aider à améliorer notre productivité. Les spécialistes du marketing et de l'économie s'y intéressent pour des raisons évidentes. Même nos hommes politiques s'intéressent à la façon d'influencer nos décisions avec l'utilisation de plus en plus fréquente des nudges. Un nudge, c'est une technique de manipulation douce ou de suggestion indirecte utilisée pour influencer le comportement des individus sans recourir à des mesures coercitives ou à des incitations financières directes. Le concept de nudge a été popularisé par les économistes Richard Taylor et Cass Sustain dans leur livre « Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness » publié en 2008. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un nudge ?
Bonne attention s'il vous plaît pour des raisons de sûreté. Les passagers sont instamment priés de conserver leur bagage avec eux. Your attention please for security reasons. Passengers, took their baggage with them.
Prenons l'exemple célèbre de l'aéroport d'Amsterdam. Les responsables de l'aéroport ont été confrontés à un problème particulièrement nauséabond, celui de la présence de vastes flaques d'urine à côté des urinoirs. Plutôt que de recourir à des messages moralisateurs sur l'importance de bien viser quand on fait pipi et de respecter le personnel de ménage, ils ont eu recours à une approche plutôt créative. Ils ont incrusté de fausses petites mouches au milieu des urinoirs. L'effet a été spectaculaire. Les hommes, sans même y penser, se sont enfin mis à diriger leurs jets de façon parfaitement à droite vers la cible, et les déversements intempestifs à côté des urinoirs ont chuté de manière drastique de plus de 80%, réduisant de façon considérable les coûts de nettoyage. Incroyable. Cette petite mouche était donc un stimulus subtil, un nudge, qui a incité les individus à faire le bon choix sans leur interdire pour autant d'autres options, c'est-à-dire de continuer à uriner par terre comme des bourrins. Et c'est là toute la magie des nudges. Ils interviennent dans notre environnement comme des coulisses discrètes dans une pièce de théâtre, guidant nos actions vers des comportements attendus. On comprend pourquoi les politiciens s'intéressent aux nudges, avec comme argument qu'ils pourraient aider à façonner des comportements plus vertueux, avec par exemple l'adoption de la vaccination Covid, à l'époque où nombreux étaient ceux qui y étaient réticents, souvenez-vous, ou de comportements plus écologiques, voire même, on a utilisé les nudges pour l'amélioration de l'épargne pour la retraite. Tout cela sans imposer de nouvelles règles ou de nouvelles lois. Cependant, rappelons-nous que les nudges sont des tours de passe-passe qui soulèvent malgré tout des questions éthiques. Pouvons-nous jouer avec l'inconscient, l'influencer, voire le manipuler impunément ? Certains répondront non, définitivement. D'autres qu'ils doivent être utilisés de manière transparente, prudente et en respectant les droits individuels. D'autres s'en fichent royalement et étudient le neuromarketing pour tester quelles sont les luminosités optimales, les volumes sonores et les stimuli efficaces pour optimiser les gains dans les casinos. Ils étudient même le taux d'oxygène optimal pour nous faire cracher le plus d'argent possible dans le temps le plus court. Crazy world. Mais revenons sur la question des biais cognitifs dont nous entendons de plus en plus parler et surtout peut-être sur la façon de tenter d'y échapper. Les scientifiques en ont décrit actuellement plus d'une centaine, mais voici peut-être le top 5, en tout cas une sélection personnelle, des principaux biais dont nous sommes au quotidien inconsciemment victimes au cours de nos choix en apparence les plus rationnels. Premier biais, le biais de confirmation que l'on pourrait renommer le gardien de l'écho. Imaginez un majordome zélé de la psyché, ce biais de confirmation, gardant la porte de vos croyances bien fermée. Il laisse entrer seulement les informations qui ressemblent à des amis bienvenus, tandis qu'il repousse celles qui sonnent comme des intrus. Par exemple, si vous croyez que les chats noirs portent malheur, vous remarquerez chaque fois qu'un chat noir croise votre chemin un jour de poisse, mais vous ignorerez les nombreuses fois où les félins aux poils sombres ont été associés à de la chance, comme dans le cas de Jeanne, qui présentait ce biais de confirmation. Deuxième biais que je vais vous décrire, le biais de disponibilité. Et lui, on pourrait le renommer le scénariste en chef. Ce biais de disponibilité, c'est un dramaturge prolifique. Il écrit des scénarios pour nos cerveaux en permanence. Il crée des histoires basées sur les informations les plus fraîches et les plus vives, peu importe à quel point elles sont rares. C'est pourquoi nous avons tendance à surestimer les risques de choses qui nous viennent facilement à l'esprit. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous avez vu récemment un reportage terrifiant sur un accident d'avion, vous pourriez envisager de plutôt choisir le train ou la voiture, alors même que les statistiques indiquent le contraire. Troisième biais de notre petit top 5, le biais d'immunité à l'erreur. J'ai toujours raison parce que c'est moi. Le biais d'immunité à l'erreur, eh bien c'est un tyran de l'irrationalité. Il fait exploser les faits les plus concrets, comme par exemple le fait d'être convaincu que l'on est un superconducteur automobile alors même que l'on vient d'avoir vu son permis de conduire suspendu. Cela a été montré dans une étude conduite auprès de chauffards en invalidité après un accident grave qui considéraient, après tout cela, qu'ils étaient quand même, en moyenne, de bien meilleurs conducteurs que les autres. Parce que je le vaux bien. Vanité, tout est vanité. Avançons dans notre top 5. Quatrième, le biais de projection. Qu'est-ce que c'est que le biais de projection ? C'est un miroir déformant qui nous fait voir nos propres traits et croyances chez les autres. C'est comme si nous étions des sortes d'artistes peignant le monde à notre propre image. Si par exemple vous êtes quelqu'un d'obsédé par la ponctualité, vous pourriez penser que tout le monde devrait l'être également et vous serez absolument consterné par les amis qui arrivent en retard à un rendez-vous sans considérer qu'ils ont peut-être leur propre personnalité ou fonctionnement par rapport à cette question-là. Et terminons avec un cinquième biais, qui est le biais d'optimisme irréaliste. On pourrait le renommer le jeu de la marelle minée. Ça fait un peu peur, ce jeu. Le biais d'optimisme irréaliste est comme un enfant joyeux jouant à la marelle sur un champ de mine. Il nous pousse à surestimer notre chance et à sous-estimer les risques. La Française des Jeux aime bien ce biais. Imaginons-le sautant de case en case, ignorant les dangers. Si vous croyez que vous êtes immunisé contre les problèmes de santé, vous pourriez par exemple ignorer des signaux d'alarme importants, comme des symptômes préoccupants. Alors voilà, chers auditeurs, les 5 principaux biais cognitifs qui nous piègent dans le labyrinthe de nos décisions quotidiennes. Ces acteurs de l'esprit humain peuvent nous jouer des tours, nous faisant voir le monde à travers des lentilles totalement déformées. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi vous avez pris une décision étrange, absurde, demandez-vous si l'un de ces satanés protagonistes n'a pas joué un rôle. Errare humanum est, c'est perseverare. Quand on répète le même scénario, il faut s'interroger. Et peut-être que l'un des moyens les plus puissants pour contrer les biais cognitifs, eh bien c'est l'introspection. Prendre du recul sur soi-même, se questionner sur nos motivations profondes, peut nous aider à mieux comprendre les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre. Pour Jeanne, cela signifiait explorer pourquoi elle était si attachée à la peur de l'intervention chirurgicale et pourquoi elle percevait cette intervention comme une incertitude et une menace. Et cette introspection, d'ailleurs, l'a aidé à mieux comprendre les forces qui la poussaient à prendre une mauvaise décision qui était celle de l'anxiété. Enfin, n'oubliez pas aussi que l'humour peut être un antidote puissant contre ces biais. En riant de nos propres erreurs, nous pouvons les rendre un peu moins tyranniques. Restez curieux, observez vos pensées et continuons d'ailleurs, à explorer les méandres de notre propre esprit. C'est dans cette quête-là, peut-être, que réside la clé de certaines de nos décisions éclairées. Chers auditeurs, retenez des mécanismes dans l'inconscient qui sous-tendent nos décisions quotidiennes, qu'il y a donc une danse subtile entre le cortex préfrontal et les régions plus primitives de notre cerveau, et que les biais cognitifs qui en surgissent sabotent, parfois très gravement, notre rationalité, en passant par nos choix professionnels, amoureux, alimentaires, la gestion du temps, et qu'il est possible de manipuler l'inconscient, on l'a vu avec les nudges, et d'avoir de l'influence sur nos choix, à notre insu. Rappelez-vous peut-être que la vraie sagesse réside dans cette capacité à prendre du recul, à se remettre en question et à sonder les méandres de notre inconscient. C'est dans la prise de conscience de ce décalage entre ce qui semble évident, qui n'est parfois que l'arbre qui cache la forêt, et la petite vérité qui scintille faiblement au loin dans notre esprit, que réside parfois la clé de la décision éclairée. Et puisque nous avons commencé avec l'Odyssée d'Homère, terminons avec ce conseil judicieux. Suivons l'exemple d'Ulysse, qui n'hésita pas à demander à ses marins de l'attacher au mât du bateau lorsque les sirènes chantaient, alors que ce faisant, il remettait sa vie entre leurs mains. C'était des inconnus. Laissons parfois nos proches, nos équipes, nos amis nous conseiller, et à défaut de les laisser nous attacher, écoutons-les. Et justement, merci vraiment de m'avoir écouté pour cette émission sur l'influence de l'inconscient sur la prise de décision. J'espère que cette émission vous a inspiré et incité à regarder vos propres décisions d'un œil nouveau. Et surtout, je serai vraiment ravi d'écouter vos propres témoignages et de répondre à toutes vos questions sans aucun biais. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici James Blake, Loading, sur France Inter. We'll be right back. Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour Monsieur Gourion, je m'appelle Marion. J'ai une question au sujet de Jeanne, la patiente qui doit prendre la décision de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer. Vous dites qu'il n'y a qu'une bonne décision pour elle et qu'elle semble avoir pris la mauvaise décision, sans le savoir encore. Alors je me demande si... Penser qu'il n'y a qu'une bonne décision ne reviendrait pas à dire que Jeanne n'a pas le choix. Et je me demande aussi, par conséquent, si Jeanne n'exerce pas une forme de rébellion face à ce choix qui n'en est pas un. Et qui serait peut-être sa seule marge de manœuvre, en tout cas ce qu'on lui présente comme étant sa seule marge de manœuvre, et qui est en fait peut-être seulement... un consentement qu'on lui demande et qu'elle n'a peut-être pas encore compris comme ça. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, chère Marion. C'est une question plus que pertinente. Elle est géniale. J'ai presque envie de vous proposer de vous embaucher. Ne seriez-vous pas psy ? Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Elle soulève plusieurs sous-questions éthiques, philosophiques, la question du consentement en médecine. Et puis, on peut l'aborder aussi sous l'angle qui est celui de l'émission, qui est un biais cognitif particulièrement intéressant et que Marion, dans votre sagacité, vous avez relevé, qui s'appelle la réactance psychologique. Qu'est-ce que c'est que la réactance psychologique ? Je ne sais pas si vous connaissez les chats, moi j'ai un chat, quand je le pousse d'un côté, il a envie d'aller de l'autre côté. Et cette réactance psychologique, eh bien, c'est justement la tendance à réagir de manière opposée à ce qui peut être perçu comme une restriction de notre liberté ou de nos choix. Nous avions évoqué la question des nudges, on l'utilise beaucoup, justement, dans ces manipulations subtiles. Alors, lorsque nous sentons contraints ou pressés dans une direction particulière. Les prestidigitateurs l'utilisent beaucoup aussi quand ils vous font choisir une carte. Les mentalistes utilisent beaucoup cette dimension de réactance psychologique. Eh bien, notre réaction naturelle peut être de résister, même si cela va à l'encontre de nos intérêts. Et ça a été très étudié, cette réactance psychologique en profondeur, par le psychologue américain Jack Brehm, qui a développé cette théorie dès les années 60. En se penchant notamment sur la réaction des individus face à des menaces perçues contre leur liberté de choix. Il a suggéré que lorsque nous nous sentons contraints ou que l'on nous dit de façon trop rigide ce que l'on doit faire, eh bien nous avons tendance à réagir en éprouvant un désir accru de faire l'opposé en réaffirmant d'une certaine façon, comme vous l'avez très bien perçu Marion, chez Jeanne, notre liberté et notre autonomie. Mais pour revenir sur cette théorie de la réactance psychologique, elle a des implications très importantes dans des domaines tels que la psychologie sociale, la persuasion, l'art de la rhétorique si j'ose dire, que nos politiciens connaissent bien, le marketing, la communication, ou tout simplement la compréhension de la réaction des individus face à des tentatives de persuasion ou d'influence. Alors, pour revenir à la question plus précisément concernant Jeanne et la décision médicale, l'idée que Jeanne pourrait exercer une forme de rébellion, de résistance face à des choix perçus comme limités, peut s'inspirer de cette théorie de la réactance, le sentiment qu'il n'y aurait qu'une bonne décision, que les médecins chercheraient, d'une certaine façon, le corps médical chercherait à lui tordre un peu le poignet en lui disant « Mais écoutez, vous avez le choix, mais en réalité, vous ne l'avez pas, parce que si vous ne faites pas cette intervention, ça va mal se passer », pourrait être une tentative d'orientation, d'influence, de manipulation dans une direction particulière. Et en réaction à cette pression, elle pourrait ressentir, en effet, une réactance psychologique et se rebeller, comme vous l'avez supposé. Cependant, il est quand même très important de noter que les professionnels de santé, justement, et ça a d'ailleurs été le sens de la loi, on ne va pas revenir sur les lois Kouchner, etc., mais sur l'information, sur le partage de la décision avec le patient, les professionnels de santé, nous sommes quand même extrêmement incités à fournir des informations de qualité et à proposer, sur la base d'une expertise médicale, et en l'occurrence pour Jeanne qui était collégiale, et puis par ailleurs, à laisser le temps à la personne concernée de prendre une décision éclairée au vu des informations qui lui ont été fournies. Et il incombe évidemment à Jeanne, à la patiente, en l'occurrence, de prendre la décision finale conformément à son propre jugement et à ses valeurs. Alors, en évoquant la réactance psychologique, hein, et puisque vous y allez, j'y viens aussi, eh bien, il est évident que le rôle des professionnels de santé n'est donc pas simplement de dicter la meilleure option, mais aussi de reconnaître et de respecter l'autonomie du patient et ses mécanismes psychologiques, dont celui-ci. Et cela peut impliquer, implique évidemment, nécessairement, d'écouter extrêmement attentivement les préoccupations, les questions de Jeanne, de prendre le temps, ce qui nous manque parfois de plus en plus cruellement. Et vous savez aussi les difficultés de l'hôpital public actuellement pour prendre ce temps, mais il faut le faire, de lui fournir des informations complètes, équilibrées, de la soutenir dans sa prise de décision, quel que soit son choix final. Donc en fait, s'il fallait me résumer, la réactance psychologique peut jouer un rôle dans la perception des choix, mais il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert, une communication efficace entre les patients et les professionnels de santé pour garantir le fait que les décisions médicales soient prises en toute connaissance de cause et en toute confiance. Et j'espère avoir un peu répondu, Marion, mais encore une fois, si vous cherchez une réorientation professionnelle, n'hésitez pas à m'appeler. À très bientôt et au revoir.
Bonjour, je m'appelle Thérèse et je viens d'écouter le podcast sur le choix. J'ai une question en ce qui concerne l'absence de choix ou l'impossibilité qu'on peut rencontrer d'avoir un choix durable. C'est-à-dire une personne qui fait un choix et qui quelques heures ou quelques jours après est littéralement torturée par le fait, enfin par l'idée que son choix est erroné, n'est pas celui qui lui convient et est faux. Il ne peut être soulagé de cette idée qu'en essayant d'inverser le choix qui a été fait, ce qui mène parfois à des situations complexes et incompréhensibles pour les autres. Merci pour votre avis, votre réponse.
Chère Thérèse, merci à vous, merci pour cette question parce qu'elle ouvre des champs multiples et complexes et tout à fait passionnants. On pourrait évoquer ce que les aliénistes du siècle dernier nommaient la folie du doute, ces personnalités obsessionnelles qui interrogent, qui remettent en cause, tout ceci étant sous-tendu par une grande anxiété. Mais en fait, je pense que il serait peut-être intéressant d'apporter l'éclairage un peu de la neuropsychologie cognitive et d'aborder ce qui est communément connu, et pardonnez-moi les gros mots, mais je vais expliquer, je vais pas rester dans le jargon, ce que nous nommons le regret post-décisionnel en neuropsychologie, ou doute post-décisionnel. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça peut être expliqué par plusieurs mécanismes psychologiques. Tout d'abord, ça reflète un peu la nature complexe, extrêmement complexe, des choix et de la prise de décision. Et donc, c'est pas juste un seul choix de temps en temps, c'est une multitude de choix que nous opérons, parfois même sans en prendre tout à fait conscience. Et puis, à chaque fois que nous prenons une décision, ça implique, ce qui n'est pas toujours facile, de renoncer à toutes les autres options, à toutes les autres possibilités. Choisir, c'est renoncer. Et ce compromis initial peut créer donc des sentiments d'incertitude, de regret, de doute, si nous remettons en question la pertinence de notre choix ultérieur. Alors, la théorie du regret post-décisionnel, elle explique un peu comment les individus réagissent émotionnellement, mais aussi cognitivement, intellectuellement, aux décisions qu'ils ont prises. Hein. Pas uniquement des êtres rationnels, sinon nous serions des ordinateurs, le monde serait un peu triste, nous sommes aussi émotionnels, et c'est ce couplage rationalité-émotionnalité qui est particulièrement passionnant et qui explique, et puis toute la dimension inconsciente, et nous sommes vraiment dans le sujet. Alors, cette dimension de regret post-décisionnel, elle a été développée en psychologie cognitive par Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui, alors, peut-être connaissez-vous leur nom, en tout cas, ils ne sont pas inconnus. Daniel Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux sur les biais cognitifs, et en particulier sur les différents modes de pensée dans les prises de décision, et en particulier dans les mauvaises décisions que nous prenons. Alors, ils ont constaté, ces deux chercheurs, que nous avons tendance à anticiper le regret que nous aurons d'avoir pris une décision avant même d'avoir pris cette décision. C'est quand même un peu compliqué, les êtres humains. Et puis, qu'une fois que nous l'avons pris, nous avons tendance à éprouver du regret ensuite. C'est un peu ce qu'on ressent quand on voit les chiffres du loto et qu'on a mal choisi. Hein. On a les regrets post-décisionnels. Et cette émotion de regret influence souvent nos choix futurs, avant même que nous les ayons produits. Et ça peut expliquer un certain nombre de comportements humains tout à fait irrationnels. Alors, je disais, hein, leur travail a eu un impact immense. Et il est donc en grande partie basé sur cette dimension émotionnelle douloureuse, ce sentiment de mécontentement, de tristesse, au fond, d'aversion à la mauvaise prise de décision, à l'erreur. Nous avons une aversion à l'erreur, comme si nous étions des êtres parfaits. Nous avons du mal à accepter que nous ne le sommes pas. Et nous avons aussi beaucoup de mal à accepter l'idée que notre cerveau, notre psychisme, malgré toutes nos intelligences, nos complexités, n'est pas une excellente machine à prédire le futur et l'avenir. Nous ne sommes pas de très bons ou très bonnes Nostradamus ou Madame Irma. Et ça peut être d'ailleurs motivé par le désir de revenir en arrière pour prendre une autre décision. Alors, je vais prendre une métaphore simple pour rendre tout ceci un peu plus concret. Imaginez que vous soyez, ce week-end, vous ayez décidé, il fait encore un peu chaud, d'aller vous acheter une crème glacée, et puis on vous propose un grand nombre de saveurs délicieuses. Alors, vous décidez, Thérèse, de choisir le chocolat, parce que ça a l'air très très bon. Et puis, une fois que vous avez votre cornet, vous vous rendez compte que votre voisin ou votre voisine dégustait une excellente crème au caramel salé qui vous semble éminemment bien meilleure que votre glace au chocolat. C'est ça, le regret post-décisionnel. Et il vous frappe à ce moment-là comme un iceberg. Si j'avais choisi la crème caramel salé, je serais tellement plus heureuse. Et on se sent à ce moment-là coincé dans une sorte de, pardonnez-moi, de mélasse de regrets caramélisés. Je sors des métaphores glacées ou glaciales. Et il y a donc, quand nous subissons ce sentiment de regret douloureux, de « je me suis trompé dans ce choix », qui peuvent être un choix très simple, ou des choix beaucoup plus complexes dans nos vies, eh bien nous avons, notre psychisme opère, ce que nous appelons là encore, pardonnez-moi le gros mot, une comparaison avec un scénario contrefactuel. Et qu'est-ce que c'est qu'un scénario contrefactuel ? Eh bien, c'est la comparaison entre la réalité, ce qui s'est réellement passé, et ce que serait ma vie si j'avais choisi les bons numéros du loto. Évidemment, ce serait extrêmement différent, ou si j'avais choisi cette délicieuse crème au caramel glacé. Et là, donc, j'idéalise. C'est ça, le scénario contrefactuel. Il est faux, hein, il est contrefactuel, parce que ça n'est pas ce que j'ai choisi, mais mon cerveau fait la comparaison et, évidemment, me reproche ce décalage entre la réalité et le fantasme idéal de ce que j'aurais souhaité vivre de bien plus agréable. Eh bien, il est essentiel, Thérèse, je crois, de noter que le doute post-décisionnel est un aspect normal de la prise de décision. Je disais au départ, on aurait pu évoquer les personnalités obsessionnelles, ces anciennes folies du doute, etc. Eh bien non, on a tous, nous avons tous ça, c'est normal. Et simplement, quand c'est trop important, trop marqué, source de souffrance ou d'anxiété, on peut parfois se faire aider d'un professionnel pour justement réussir à réduire un petit peu ces mécanismes de dissonance cognitive et essayer d'être un petit peu plus en ligne avec soi-même, surtout quand on constate que ces difficultés sont excessives et qu'elles interfèrent de manière significative avec le fonctionnement du quotidien. Puis je crois qu'il faut aussi apprendre à accepter que, eh bien, les êtres humains, nous pouvons nous tromper, nous sommes imparfaits, et c'est une bonne chose, et c'est aussi un élément de la beauté et du caractère, extrêmement fragile de nos existences, mais aussi extrêmement intéressant, extrêmement touchant. Les gens sont tellement touchants quand ils se trompent, et tellement moins touchants quand ils ont toujours raison, ils sont épouvantables. Voilà, en tout cas, merci pour votre question, et j'espère que la réponse vous aura un tout petit peu aiguillé vers le fait de peut-être mieux accepter que nous nous trompons tous, et c'est notre honneur, d'une certaine façon, d'être humain, que de revendiquer que nous sommes imparfaits.
Bonjour, François à l'appareil. Voilà, j'ai beaucoup bien apprécié votre podcast et me vient une question. Qu'en est-il de la responsabilité individuelle en ce qui concerne donc nos actes, voire une culpabilité dans les cas les plus graves? Merci de votre réponse.
Bonjour François, merci pour votre question passionnante sur la responsabilité individuelle, la culpabilité. Alors, c'est un sujet tellement complexe qu'il est à l'orée de différentes disciplines, profondément ancrées évidemment dans la psychologie, mais aussi dans la philosophie, l'éthique et la pensée juridique. Alors, peut-être que, évidemment, la responsabilité individuelle, c'est déjà l'un des piliers qui structure toute société. Elle découle de notre capacité à prendre des décisions conscientes, à comprendre les conséquences de nos actes. Elle est sous-tendue, et c'est d'ailleurs un concept pas uniquement philosophique, mais biblique aussi, par la notion de libre arbitre, qui évidemment est partiellement, en tout cas, remise en cause au vu des perspectives philosophiques. On pourrait évidemment invoquer l'éthique de Kant, on pourrait invoquer l'utilitarisme de Mill, on pourrait invoquer évidemment Nietzsche et les autres, on pourrait évidemment invoquer en psychanalyse Freud, qui a exploré très en profondeur les liens entre la culpabilité, le surmoi et la partie de notre psychisme qui internalise les normes sociales et morales. Et puis on pourrait avoir aussi une perspective plus neuroscientifique. Je pense à cet excellent livre, j'ai déjà recommandé qu'il est intéressant de lire pour répondre à cette question, qui est L'erreur de Descartes, où il est décrit comment des lésions cérébrales peuvent aussi modifier en profondeur la personnalité. Il montre à quel point nous sommes fragiles en réalité, hein, et que s'intriguent des aspects donc moraux, psychologiques, affectifs, conscients, inconscients, mais aussi des réseaux neuronaux, et qu'en réalité, cette question-là mérite une réponse qui ne soit non pas une réponse universelle, mais une réponse absolument singulière au cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle les experts psychiatres dans les tribunaux sont à la fois souvent fort critiqués et souvent d'ailleurs en contradiction les uns avec les autres, parce que les questions sont extrêmement complexes. Et d'ailleurs, le juge n'est absolument pas obligé de suivre la décision des experts. C'est une vraie question, un vrai sujet, ce qui montre à quel point la question est complexe. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne jamais être expert pour les tribunaux. Je préfère être du côté du soin que du côté de celui qui suggère qui est responsable et qui est coupable. C'est une position que je n'aurais pas personnellement la possibilité d'assumer. En tout cas, merci pour cette question extrêmement passionnante. Merci pour vos questions et merci à Maxime Goudard à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Winter. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes, dans l'application Radio France ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 novembre pour mon prochain épisode.